King Nomad.
Bonjour, je suis Camille Delaurier. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouskois de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci à l'émission, nous recevons l'écrivaine Élise Turcotte. Élise Turcotte qui est poète, nouvelliste et romancière. Élise Turcotte a publié plusieurs recueils de poésie pour lesquels elle a remporté de nombreux prix. Ses plus récents titres sont « Ce qu'elle voit », publié au Norrois en 2010, « Piano mélancolique », publié aussi au Norrois en 2005, et « Sombre ménagerie », publié aux éditions Le Norrois en 2002. Elle a aussi publié plusieurs livres pour enfants, des nouvelles et des romans, dont « Le bruit des choses vivantes » chez Le Méac en 91 et chez Babel en 98, « L'île de la Merci » chez Le Méac en 97 et dans la collection Bibliothèque québécoise en 2001, et La Maison étrangère chez Le Méac en 2002, qui a gagné d'ailleurs le prix du gouverneur général 2002, ainsi qu'un recueil de récits « Pourquoi faire une maison avec ses morts » chez Le Méac en 2007. Son livre « Rose derrière le rideau de la folie » a remporté le prix du gouverneur général 2010 et a reçu une mention au prix Poésie Yveline des collégiens 2010. Récipiendaire de la bourse de carrière du Conseil des arts et des lettres du Québec, Élise Turcotte a travaillé un roman qui s'appelle Guyana et qui a remporté aussi le Grand Prix du livre de la ville de Montréal en 2011. Enfin, elle vient de faire paraître Autobiographie de l'esprit aux éditions La Mèche. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons parler de cet essai fascinant qui est Autobiographie de l'esprit et de la démarche d'écriture qui a mené à ce livre très particulier. Dans un deuxième temps, Élise nous lira un extrait d'Autobiographie de l'esprit. Et enfin, dans un troisième temps, nous allons reparler avec elle et suivant notre tradition, mais aussi pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission, nous allons aborder les lectures qui l'ont accompagnée pendant l'écriture de l'essai Autobiographie de l'esprit et l'influence de certains livres ou certains auteurs marquants dans sa démarche d'écrivaine. Alors, nous accueillons aujourd'hui à l'émission Mme Élise Turcotte. Bonjour Élise et bienvenue à l'émission.
Bonjour Camille.
Élise, j'aimerais d'abord mentionner à nos auditeurs que votre essai prend un peu la forme de fragments ou d'un collage d'autoportraits qui sont peut-être comme autant de miroirs ou je dirais plutôt de petits éclats de miroirs de votre travail d'écrivaine. On retrouve des entrées sur votre vision de l'écriture, sur la voix, sur l'errance, sur l'enfance et même sur l'autofiction. On retrouve aussi des fragments où vous revenez de façon très imagée, très onirique sur certains livres que vous avez écrits et sur votre rapport à ces livres-là. On retrouve des entrées sur des œuvres d'art qui vous sont chères, quelques rêves, un bestiaire. Mm-hmm. En somme, on entre ici dans ce qui tient un peu des marges de votre œuvre et ce qui fait aussi beaucoup votre univers onirique, je pense.
C'est bien résumé.
Merci,
c'est pas évident non plus.
Alors, comment vous est venue l'idée de ce projet-là et qu'est-ce qui a mené à la réalisation de ce projet-là?
Ah, c'est particulier. Bien, j'ai travaillé beaucoup sur les autoportraits, moi. C'est quelque chose qui me fascine dans l'art. Puis, je me posais beaucoup de questions sur l'autoportrait en écriture.
D'accord.
Puis, j'en ai fait dans mes recueils de poèmes. Et j'ai deux recueils de poèmes où il y a une partie qui s'appelle, des parties qui s'appellent autoportraits. Et puis, je commence à prendre des notes. Je vais au musée. Je prends des notes sur plusieurs choses. J'ai toujours des cahiers d'accompagnement aussi quand j'écris des romans.
Des carnets.
Des carnets. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, ben, je commence à penser, je vais mettre ça en forme. Mm-hmm. Puis, justement, lors de ma... Quand j'avais demandé la bourse de carrière, c'était ce projet-là que je voulais faire.
D'accord.
J'avais déjà mon titre, Autobiographie de l'esprit. Mm-hmm. Mais ce qui s'est passé, c'est que aussi Geneviève Thibault de La Mèche m'a téléphoné un jour pour me dire... Ah, je vois tes entrées sur Facebook, parce que pour moi, il y a comme une action autoportraitiste aussi dans Facebook. Je vois tes entrées, t'es fascinée par les images, les autoportraits, ça tente-tu qu'on fasse un livre?
Oh.
Et là, ben, là, j'ai dit, ben, j'y vais, parce qu'elle avait la même idée que moi aussi de prendre des textes puis de les mettre en scène. Il y a comme une mise en scène dans le livre. Il y a beaucoup de montage.
Oui.
Donc, il y a des textes que j'avais déjà faits, mais il y en a beaucoup qui se sont ajoutés. Et je voulais aussi, je voulais pas que ça soit je voulais que ça soit transgenre, je ne sais pas comment
dire
ça.
Oui, parce qu'il y a un aspect visuel qui est très important.
C'est ça, un aspect visuel, le choix du papier, des images. On n'avait pas énormément d'argent parce qu'il y aurait eu peut-être plus d'images.
Ouais, mais en couleur, peut-être.
Puis je voulais avoir une liberté complète. Puis ça, je l'ai vraiment eu.
Ah, ben c'est
donc, il y a plusieurs... il y a une partie essai.
Oui.
En fait, il y a des essais, il y a une partie qui parle beaucoup de l'écriture, il y a des rêves, comme tu l'as dit tantôt, puis à la fin même, j'ai continué, c'est la fin, le dernier chapitre, c'est j'ai continué la fin de « Pourquoi faire une maison avec ses morts ». Donc, j'ai repris une autre fin. Donc, je me suis vraiment amusée.
Ben oui, puis on est toujours aussi très près de la poésie, hein, quelque part,
tout
en temps, pause.
Oui.
Ensuite, j'aimerais savoir, ben justement, puisque c'est multiple, hein, ce livre-là, comment vous avez structuré les différents fragments qui composent ce livre-là, qui est fascinant, mais comment on s'y prend pour structurer un livre comme ça dans un projet dont la forme est aussi éclatée, qui est au bord de l'onirisme, au bord de la poésie, qui est transgenre, en fait?
Bien, c'était pas simple, parce que justement, je voulais mettre de la poésie, des essais, mais tu mets toutes tes affaires sur une grande table, puis à un moment donné, à force de relire, le montage se fait par lui-même. Parce que je voulais pas non plus que ça soit, comment je pourrais dire, chronologique ou trop. Mais il y avait quand même une partie où c'est la voix. Il y a une partie qui s'appelle autoportrait à la manière noire. Puis après ça, il y a écrire. Parce qu'il y a plusieurs... Il y a trois parties qui sont en italique dans ma table des matières. C'est assez complexe. Il y a écrire, il y a voir... Puis, c'est quoi l'autre parler? Mm-hmm. Fait que ça, c'était très important pour moi. Écrire, ben là, je savais que tous mes textes qui parlaient vraiment...
De l'écriture.
Concrètement, de l'écriture étaient là. Voir, c'est toute ma vision sur... Parce que mon idée aussi, c'était de dire écrire, c'est voir.
Ouais.
Et je voulais parler vraiment de ça. Et parler, c'était toutes les conférences que j'ai déjà données, que j'ai retravaillées pour le livre. Donc, parler de la poésie. Mm. Mais je l'ai mis en italique parce que... Je voulais pas non plus que ça soit universitaire et hyper organisé. Mmh. C'était pas ça mon idée.
Non, parce que c'est une logique qui est onirique, qui est presque analogique par moment.
C'est complètement analogique, oui.
Bien, merci beaucoup. Enfin, je voulais qu'on aborde aussi ce que vous appelez peut-être cette grande méprise à laquelle on assiste aujourd'hui.
Ah oui.
Et cette confusion qui règne autour d'un terme qu'on entend beaucoup, hein, autofiction, et qui nous éloigne peut-être au fond de ce qui importe vraiment l'écriture. Alors, quelle est votre position sur ce sujet-là?
Bien, ma position, c'est que ce mot-là a fini par m'écœurer. Excusez, c'est vraiment... Claire. C'est parce que moi, j'ai trouvé qu'en employant ce mot-là, à un moment donné, c'est devenu un fourre-tout. Et c'est devenu même une excuse pour dénigrer le travail de beaucoup de femmes, beaucoup d'écriture de femmes. Et en plus, pour dénigrer le « je » en écriture. Mm. Puis je l'ai vu beaucoup chez mes étudiantes surtout, qui, dans des ateliers d'écriture, n'osaient plus écrire au « je ». Disant « ça va être l'autofiction, ça intéresse personne », alors que le « jeu est une posture comme une autre dans l'écriture. C'est pas parce
que... une voix narrative.
Une voix narrative, c'est tout. Donc, puis évidemment, on le sait bien que c'est plus des femmes qui ont fait de l'autofiction depuis que ce terme-là existe. Mmh. Donc, c'est vraiment une façon de... Mais pour moi, de réduire un peu la portée de l'écriture des femmes. Et c'est pour ça que ça m'a... J'aime pas employer ce terme-là, parce que je trouve ça vraiment réducteur. Puis, de toute façon... L'autofiction existait bien avant qu'on invente ce mot-là.
Ben oui, tout à fait.
Voilà.
Merci beaucoup, Élise, d'avoir répondu à mes questions sur votre livre « Autobiographie de l'esprit ».
Fast as you can be, deep the shade of blue. When you're feeling alone, oh, to whom else do you go? See, I'd cry if you hurt, I'd give you my last shirt. Because I love you so. Now if my sky should fall, never want to part. I'm giving you the ball. I will love you when you're blue, but tell me, darling, true, what am I to you?
Alors maintenant, écoutons Élise Turcotte nous lire un extrait de son livre « Autobiographie de l'esprit ».
Enfance. Il existe une petite fille dans l'escalier, un chien noir, un chat noir, un canard noir. Il existe un soupirail par où passent les adultes. Un couple des assortis, une petite fille clown, un bruit de chaudron échappé de l'armoire, des rires, un boum, un éclair, une carcasse de lion dans la cour. Quelqu'un d'autre. Il existe toujours quelqu'un d'autre. Et des souliers neufs et une personne qui a peur. Un dictionnaire de mots, vert, de forme allongée, à la place d'une poupée molle sans possibilité d'amitié. Il existe un mur blanc, un ordre, des objets empilés, mais juste en pensée, probablement dans l'avenir. Il n'existe pas d'addition. Il y a l'ordre. Il existe des cailloux, de la terre, des couches de vêtements qu'on enlève, certainement une promenade en voiture. Des soirées de télévision en noir et blanc. Même le salon, le sous-sol, les paroles en noir et blanc. Des chansons, des centaines de chansons. Une tempête affreuse sur le fleuve, je ne me souviens pas. Il existe un catalogue de tout et un catalogue de rien. Un piano, une petite fille triste. Il existe un temps où les choses sont mieux et un autre où elles sont pires. Dans l'ordre, il existe des mots agencés différemment comme des panthères qui courent. Ce dessin est perdu. Il existe des livres à couverture rigide, des gens qui parlent la nuit, une grande et toute puissante fissure dans la géométrie de banlieue. Il n'y aurait rien avant et rien après si quelqu'un savait. Il existe des façons d'apprendre à tomber, des façons de glisser, de sortir un couteau, des façons de détester. Ce poème est disparu. Il existe des sentiments, des enfants orphelins dans chaque livre, des saltimbanques, des mendiantes sans souliers dans la neige, des chandelles allumées dans une autre pièce, des rêves violets, des rêves verts. Il n'existe rien, il existe tout, c'est tout oublié. Il y a des opérations chirurgicales où l'on goûte à la dématérialisation. Par le sol, sous le lit, dans l'air, il y a le masque. De longs cheveux attachés, des cantiques, cette photo est perdue. Des jours chauds, des jours froids, des transformations. Il existe une sonorité de masse, l'envol trop bas des oiseaux, le cri des corbeaux, les robes noires qui patinent les planchers de chêne craquant à heure fixe comme des portes de prison. Les nuits d'hélicoptère, le mot est perdu. Les légendes familiales, Chinois Salvaille, les frères Dubois, mon frère véridique caché dans un motel, Il existe un ami qui explose à la table d'un dîner, une tante morte assise sur une chaise dans l'entrée, une souris flottant dans le liquide brun de la bière, les nuages blancs dans le métro de Montréal. Il existe un purgatoire entre réel et fiction, un soupirail par où passent les adultes. Les mots sont perdus, il existe des fils sous haute tension, une architecture de monstres, des eaux sales, des rivières mortes, un chat noir, une vie autrement, des poèmes où les mots sont écrits avec les mots perdus. Il existe une surface où tout brille et une autre où tout est trop pâle.
Merci Elise, c'est vraiment magnifique.
To the sunny day, I can see it in your face that everything will be okay, 'cause you be
Alors, nous sommes de retour avec Élise Turcotte pour le troisième segment de notre émission. Élise, je sais que vous avez des livres fétiches qui vous accompagnent pendant l'écriture de certains de vos propres livres. Si vous deviez identifier les livres qui vous ont accompagné dans l'écriture de votre livre Autobiographie de l'esprit, quels sont les titres qui vous viendraient à l'esprit et pourquoi?
Ah, c'est pas facile, hein? Mais dans l'accompagnement, à la fin de mon livre, j'ai nommé à peu près tous les livres dont je parle, mais... Mm-hmm. Un des livres que j'ai découvert au cours de l'écriture, c'est « Écorce » de Georges Didi Huberman. Huberman, je ne me souviens pas de son... Oui, Georges Didi Huberman. Parce que c'est un livre que j'ai lu qui parle de l'écorce, justement, des images, de ce qui reste, de ce qu'on voit. C'est vraiment, vraiment très intéressant. J'en avais assez besoin pour... En tout cas, ça m'a aiguillé sur beaucoup de choses dans l'écriture du livre. J'avais lu aussi Carlos Escano, l'écrivain, l'autre et l'écrivain, ou l'écrivain et l'autre, mais qui est un livre qui m'a vraiment marqué. Et puis, il y a toujours les livres que je lis et je relis, comme Clarisse Lispector, Astrid Lindgren, que j'ai beaucoup aimé, Fifi Brindacier, par exemple, c'est drôle, mais ça, j'en ai reparlé beaucoup. Philippe Forêt, L'enfant éternel, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. J'ai réutilisé Marlène Ossoffer, Le mur invisible. Ça, c'est un livre qui m'avait vraiment jeté à terre. J'en parle tout le temps, mais je l'ai complètement relu pour parler de mes propres livres. Et puis, évidemment, Walter Benjamin, que j'avais découvert, qui parlait de la mémoire et de son enfance, que j'ai beaucoup aimé. Bon, ensuite, il y en a plein d'autres. Là. Annie Dillard, évidemment, qui est c'est toujours un livre de chevet en vivant, en écrivant. Et puis, Alexandra Pizarnik, ses poèmes, pour moi, c'est vraiment fantastique, etc., etc. Il y a quelque chose que je n'ai pas nommé, mais qui m'a beaucoup influencée, parce que Villa Matas, Enrique Villa Matas, que j'aime énormément, il avait fait un livre qui s'appelle « Chet Baker pense à son art ». Vous savez que Chet Baker est le nom de mon chat.
Oui.
Et puis, je l'avais acheté. Puis, ce livre-là a servi beaucoup de comment je pourrais dire, de modèle du livre Autobiographie de l'esprit, de modèle physique.
Oui.
Parce que lui, c'est de la fiction critique qu'il fait.
D'accord.
Mais on est vraiment dans l'errance aussi avec lui. Mais le livre, le choix de papier, la grandeur du livre, les images. Geneviève Thibault et moi, on était beaucoup, beaucoup... inspiré par le livre de Villa Matas.
Ah, d'accord. Bien, c'est vraiment intéressant d'avoir accès à ces marges-là. Merci.
Oui.
En contrepartie, parce que, comme tous les mois, je suis un peu curieuse de mieux connaître mes invités en tant que lecteur, quelles seraient les œuvres ou les livres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque d'Élise Turcotte?
Ah oui! Mon Dieu! C'est des romans policiers. D'ailleurs, quand je suis déménagée à 5 ans, j'ai presque toutes donné mes livres.
Oui,
mais les romans policiers que je relirai jamais, ma collection de romans policiers, j'arrive pas à les donner. Je sais pas pourquoi. Mais j'y relirai jamais, c'est ça qui est fou.
Ouais.
À côté de moi, ben ça, je pense j'en ai déjà parlé, mais il y a les lettres à sa fille de Calamité Jane, mais que j'ai appris plus tard que c'était pas des vraies lettres.
Okay.
C'est vraiment une femme qui a décidé d'écrire des fausses lettres. Mais j'adore ce livre-là parce que Calamité Jane... C'est un calunard, mais n'empêche, elle apprend à écrire pour écrire à sa fille.
Ouais.
Donc, il y a quelque chose d'assez beau là-dedans.
Ah, oui, c'est beau.
Oui, c'est vraiment beau.
C'est touchant.
Et Philippe Petit aussi, je ne me souviens pas du titre du livre, mais il parle de... Lui, c'est un... Comment on appelle ça? Qui est sur une corde, pas un funambule, mais enfin, oui.
Un équilibriste.
Un équilibriste, et il parle de ça, et c'est vraiment intéressant.
Ah ben oui, il y a quelque chose dans l'écriture, ça tient un peu.
Oui, beaucoup de ça.
Du travail du funambule. Merci beaucoup, Élise. J'aimerais enfin remercier de nouveau notre écrivaine invitée, Élise Turcotte. Merci également à Jean-Luc Théberge à la technique. Je vous rappelle que l'émission « Sous l'influence des livres » a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Chères auditrices et chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver le mois prochain.
Parking Nomade.